Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Les excellents écrivains du prochain quart de siècle, nous dit Marin de Viry, et j'ai lu ça sur le Figaro Magazine du 23 janvier 2026 à propos d'un livre de Nicolas Chemla, L'Ensorcelé. Alors il dit ceci, cet excellent Marin de Viry, les excellents écrivains du prochain quart de siècle liront le Financial Times, connaîtront la sociologie des organisations et le marketing des réseaux. C'est la condition de possibilité moderne de la littérature, voire de la poésie. Les autres produiront des petites capsules subjectives qui ne nous apprendront rien que nous ne sachions déjà. Voilà. Alors, il pose ce problème, mais effectivement, quand on lit beaucoup de poésie, comme moi, par exemple, on voit qu'effectivement, ces petites capsules subjectives se multiplient. Est-ce qu'elles le resteront? Parce que, bon, c'est de la poésie un peu d'ornementation qu'on croyait que ce siècle éradiquerait cette poésie d'ornementation. Il n'en est rien. Alors, voilà, la poésie doit se mettre aussi au goût du jour, au goût du jour, et doit vivre avec les phénomènes de son temps. Voilà, je voudrais revenir sur un vieux débat qui a occupé des gens de ma génération, c'est-à-dire des gens qui ont dépassé les 70 ans et qui se souviennent un peu de cet affrontement entre Sartre et Aron, entre Sartre et Camus. Alors voici ce que dit à ce propos Alain de Vicchio. Alain de Vicchio, que l'on voit souvent à la télévision, dans les chaînes d'information continue, et qui écrit dans le Figaro Magazine, et qui est, à mon sens, quelqu'un de très valable dans la mesure où Alexandre de Vicchio vient des banlieues, hein, de la région parisienne, et donc s'est fait tout seul à la force de ses poignets. Et ce qu'il dit, lui, c'est vraiment qu'il a l'expérience de ce qu'il avance. Alors il dit que l'affrontement le plus passionnant et fécond de la vie intellectuelle moderne n'est pas celui qui a opposé Sartre à Camus, mais celui que l'auteur de L'étranger, donc Camus, a livré, devinez à qui, à lui-même. Le premier homme et le prix Nobel, le fils de pauvre et l'intellectuel germano-prastien, le communiste et le champion de la lutte contre les totalitarismes, l'anticolonialiste soucieux de justice pour les musulmans et l'enfant du petit peuple des Européens d'Algérie, refusant d'être l'étranger sur une terre qui est aussi la sienne. Camus contre Camus. De la même manière, le plus intéressant chez Alain Finkielkraut n'est pas la bataille intellectuelle qu'il oppose à une certaine gauche progressiste, mais celle qu'il ne cesse de mener contre lui-même, le juif imaginaire et le juif assimilé, le fils de déporté méfiant à l'égard de la France et l'avocat de l'identité nationale et de la langue française qu'il se désole de voir sombrer, l'amoureux de la nature et le citadin, la skénase, fasciné par le catholicisme, l'agnostique qui confie parfois prier, l'homme de médias et l'intellectuel plongé dans ses livres, la nostalgie du passé et le goût du présent, le défenseur inconditionnel d'Israël et le contempteur impitoyable de la politique de Benyamin Netanyahou, Finkielkraut contre Finkielkraut. Voilà. Alors souvent, dans l'œuvre des poètes, on va avoir cette opposition des poètes contre eux-mêmes. Et d'ailleurs, les plus honnêtes et les plus sincères, et souvent les plus intéressants, sont ceux vraiment qui arrivent à lutter contre eux-mêmes, c'est-à-dire contre leur conditionnement, contre leurs préjugés, contre tous les préjugés sociaux maintenant qui nous inondent, nous étouffent, et nous asphyxie tellement qu'on se demande comment on peut survivre à tant de bêtises. Eh bien, il faut lutter contre soi-même. C'est la seule condition de pouvoir accéder à une vie intellectuelle profitable. Voilà, savoir lutter contre soi-même, n'avoir d'idée qu'après les avoir éprouvées soi-même. Voilà, alors les poètes sont ceux évidemment qui sont le plus à même normalement d'avoir cette lutte contre eux-mêmes. Je vais parler aujourd'hui d'abord d'une revue qui continue, dont vous savez qu'elle est chère à mon cœur, même si j'avoue que je n'en parle pas assez souvent à cette radio, ce que je vais essayer de maintenant, de m'efforcer d'y faire un peu plus allusion, c'est la revue Encre Vive. Alors, la revue Encre Vive, bien entendu, elle a été fondée en 1960, ici à Toulouse, hein, à l'AG de Toulouse. L'AG, c'est l'Association Générale des Étudiants de Toulouse, hein, l'AG à Toulouse, en 1960, je me souviens, moi, j'étais présent en 1960, donc, à certaines réunions d'Encre Vive, qui étaient à l'époque, hein, absolument à l'avant-garde, c'était l'avant-garde de la poésie en France, et c'était à Toulouse. Donc, moi qui habitais Montauban, à cette époque-là, je prenais le train et j'allais passer la journée donc, avec l'équipe de Michel Cousin, mais je me souviens qu'il avait un ami qui s'appelait Michel Druès, qui signait ses poèmes et ses recueils de poésie, Michel Blanvilliers, qui habitait la rue des Lois avec sa femme, ils étaient enseignants, et ils me logeaient chez eux, j'étais un gamin, mais ils me logeaient, ils avaient compris que vraiment la poésie était pour moi l'essentiel de ma vie, et ils m'avaient pris en sympathie, donc j'étais un peu, ils n'avaient pas d'enfants. Et donc j'étais chez eux et j'ai vu donc se former Encre Vive. Bon, ensuite Michel Cousin est devenu un ami. Il a créé ses éditions Encre Vive et vraiment le travail qu'il a fait de 1960 à sa mort en 2023 est un travail absolument remarquable et à mon avis quasiment inédit. Je veux dire, il y a personne qui a eu cette longévité et cette constance, 43 ans donc. D'efforts, 43 ans de publication, et puis on a eu la chance, une chance folle, de pouvoir avoir dans l'équipe donc, qui avait été, dans les poètes qui avaient été publiés en crevis, un certain Éric Chassefière, astrophysicien, qui s'est trouvé à la retraite et qui a eu le courage, l'audace, mais le courage de reprendre Encre Vive et de porter toujours aussi haut cette revue Encre Vive en la modernisant, c'est-à-dire en changeant le format. On est passé de l'A4 au format normal, petit format beaucoup plus commode, d'abord envoyé par la poste et à classer dans une bibliothèque. Voilà, Éric Chassefière, qui a repris, donc avec la vieille équipe de Michel Cousin, qui a repris ses Encre Vive et qui continue. Et il faut vraiment lui rendre hommage ici. Je vous invite donc à voir le site d'Encre Vive. Il faut aller voir ce site d'Encre Vive et à vous abonner à cette revue. L'abonnement vous coûtera 40 € pour un abonnement simple de 12 volumes pour un an. Hein. Vous pouvez vous écrire à Éric Chassefière, 232 avenue du Maréchal Juin, 3410 à Frontignan, ou envoyer un mail à encre au pluriel, en minuscule bien sûr, un point, encre.vive. VIVES 34, encre.vive 34, @gmail.com, encre.vive 34, @gmail.com. Voilà. Donc, il a continué, donc Éric Chassefière a publié, et ce sont de très, très, très beaux livres, là, de très belles revues. Tout est toujours dans une publication qui est toujours impeccable, avec de très belles de très belles illustrations, souvent de très belles photographies. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses, d'anthologie. Alors, il y a une anthologie d'encre vive, que vous le trouverez d'ailleurs sur le site de cette émission, qui s'appelle « Les poètes, tout attaché, sans accent, un point, site, S-I-T-E, lespoètes.site, vous retrouverez tout cela, et vous retrouverez bien entendu dans la rubrique « Publication, l'appel à souscrire éventuellement à l'achat de cette anthologie des poètes d'encre vive », mais également donc toutes les publications de poésie actuellement. Donc je vais parler des derniers numéros d'Encre Vive, de certains derniers numéros, qui ont publié des anthologies. Alors il y a deux anthologies. Il y a les anthologies des poètes du Cantal, qui s'appelle « Poètes sous le volcan », c'est le titre. C'est le 563e numéro d'Encre Vive, et c'est un choix de poète qui est proposé par celui qui habite, évidemment, le Cantal, c'est-à-dire, bien entendu, notre ami Jean-Louis Clarac, grand poète que nous saluons, et qui a donc réalisé cette petite anthologie publiée par Encre Vive. 11 poètes, donc, il a choisi, 11 poètes du Cantal. Mais également, alors, il y a, c'est le numéro 568, il y a les poètes du Quercy. Alors, c'est, devinez, Gilles Lade, bien sûr, qui habite à Figeac, donc, qui est du coin, qui a l'habitude de publier les anthologies du Quercy, puisque c'est pas sa première. Et il va proposer un choix, donc, ces poètes du Quercy. Et ces poètes du Quercy vont prendre deux volumes, le 567e et le 568e numéro d'Encre Vive, que je vous invite évidemment à vous procurer. Donc je vais commencer par ces poètes du Cantal, de notre ami Jean-Louis Clarac. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jean-Louis Clarac? Il dit « Vous allez lire dans ce recueil des poèmes de 11 poètes du Cantal. » Alors ces poètes sont Thérèse Canet, Félix Daval, Odile Fix, Nicolas G., Bastien Ackmann, Christine Laflorency da Fonseca, Éric Laflorency da Fonseca, Fabienne Massé-Mallory, Luc Massé-Mallory, qui est décédé dans l'été 2025, et puis François-Marie et Emmanuel. Alors, Emmanuel Savy, nous avons fait une émission entière donc sur Emmanuel Savy, donc qui est venu d'ailleurs dans ce studio ici. Alors Clarac dit, je les ai choisis et rassemblés en raison de la pluralité de leur voix, de la diversité de leur motivation, de la tonalité de leur écriture. Certains écrivent aussi bien en occitan qu'en français. La plupart d'ailleurs écrivent quand même en français. Voilà. Alors je vais vous lire quelques extraits de ces 11 poètes du Cantal. Hein. Il faut la voir, c'est très bien hein, que l'on puisse se disposer comme ça. C'est important aussi de pouvoir situer les poètes, je dirais, un peu géographiquement, dans leur identité géographique. Qu'on le veuille ou non, nous avons une identité géographique. Alors, je vais continuer par lire ce que disait Clarac, quand même, Jean-Louis Clarac. Qu'est-ce qu'il y a dans cette anthologie? Alors, les thèmes, nous dit-il, sont multiples. Il y a l'affirmation des femmes. Femmo erede toto eternitat, femmo serai. Femme, j'étais de toute éternité, femme, je serai, nous dit Thérèse Canet. Il y a la dénonciation de la violence guerrière. La terra tremo lavo, la scorpas cridavan. La terre tremblait, les corbeaux criaient, ça c'est Félix Daval. Il y a l'évocation de l'enfance, hein. Ils ont le corps docile, fiché, rivé, au ras de l'humus, ils ôtent la patine de nos yeux, Sébastien Ackmann. Puis il y a la quête mémorielle des éléments, montagne, où dort un arc de lune, gravie étoilée, elle naît, roche compacte dans nos mains, les œuvrants millénaires, Ça, c'est Odile Fix qui a écrit ça. Et puis, il y a le constat décalé des faits quotidiens. Comme un grand pal espotit del bord de la roto. Comme una bomba endormido per las escobillas. Sont tristes les touristes. Comme un crapaud écrasé sur le bord de la route. Comme une couleuvre endormie dans les ordures, ils sont tristes, les touristes. Ça, c'est Nicolas G. G s'écrit G-E-Y. La levée de l'amour, comme thème, hein, dans ce souffle de l'instant, avec toi, je suis plus que moi. Ça, c'est Christine Laflorency da Fonseca. Il y a aussi les circonlutions de l'inconscient. Alors là, c'est infini. Hein. La franchise épurée du socle des sarments à l'avenant du dormir. Alors ça, c'est Eric. Après Christine, c'est Eric. Laflorency da Fonseca. Il y a l'évocation de l'amour en aller. Ces fleurs qui portent en elles deuil et béatitude. Dois-je les aimer, les haïr, les soigner, rêve de transmigration. C'est Fabienne Massé-Mallory qui a écrit ça. Il y a le plaisir de la vie partagée. Je connais Santa Sante vers ton cœur des divins voyages. C'est Luc Massé-Mallory. Luc Massé-Mallory qui, je le répète, est décédé au printemps 2025. Puis il y a la douleur de l'être aimé disparu. Hein. La nuit, je caresse l'absent, mais que dire à ce jeune mort? Le silence nous enveloppe. C'est François-Marie. Et il y a, bien entendu, on l'attendait quand même, hein. Et c'est chez notre ami Emmanuel Savy, hein, qui est venu ici dans ce studio nous parler de ses poèmes. Hein. Emmanuel Savy, qui est un ami d'Elisabeth Aragon, et qui, évidemment, a comme thème l'appel de la nature. La petite branche monte résolument dans le ciel bleu d'automne. Pourquoi transformer l'arbre en papier? C'est sous forme d'écorce qui livre ses secrets. Voilà. Et je suis content d'avoir mis en contact Emmanuel Savy et Jean-Louis Clarac. Voilà. Ça a porté ses fruits. Donc je vais vous lire quelques textes de cette anthologie. Je vais commencer peut-être par Thérèse Canet. Je veux dire en français, vu l'heure. Femme, je suis. Oui, c'est sûr, j'ai reçu la blessure. Oui, j'ai connu l'offense. Oui, je suis humilié. Oui, je le dis. On a douté de mon être, de mes capacités. Oui, on a suspecté ma force créative, mon énergie réparatrice. Oui, je le dis. On a attenté à mon intégrité. Oui, il a fallu que cela soit dans les temps précédents. C'était jadis, je m'en souviens. Femme porte-fée, j'étais. Femme faire-valoir, j'étais. Femme réceptacle, consolation, compassion, reposoir, j'étais. Nourrice, génitrice, épouse, j'étais. Soutien, béquille, beauté cachée, femme, éternel mystère, j'étais. Femme, éternelle servante, j'étais. Femme, j'étais de toute éternité. Femme, je serai. Désormais, j'ai fait face. J'ai eu délivrance de ma substance. Je suis ce que je n'avais pas encore été. J'ai accouché de mon essence. Déjà bien beau d'être, déjà bien beau le souffle, la lumière, le parfum, être le temps d'une étincelle, être pour un temps un bébé, une enfant, une fille, une femme, une vieille, et au bout du chemin, tout à la fois, moi, aujourd'hui, demain, à jamais. Ce que je suis aura été. Femme louve, j'étais. Femme forêt. Je porte la terre dans mon ventre, et la terre me porte, me vêt, me berce, me nourrit. Pour quatre matins, quatre saisons, quatre siècles encore, qui sait? La merveille a été, la merveille sera. Suffit que quelqu'un garde le feu, que quelqu'un loue la mer et les oiseaux, chante les arbres, le vent, les eaux. Suffit de tenir les nids chauds et de veiller, sur l'avenir des morts. Voilà. Veiller sur l'avenir des morts, c'est un peu notre mission ici, hein, à Radio Occitanie et dans cette émission Les Poètes. Alors, tout ça pour vous dire à quel point Thérèse Caner a écrit ça en occitan. Donc, vous montrez vraiment à quel point on est là, loin de tout régionalisme, de tout folklore. C'est fini tout ça. Il y a une poésie occitane, une littérature occitane, qui est une littérature d'avant-garde, hein, de pointe, et qui s'insère totalement dans notre époque. Félix Daval, La bataille des Kobanés. La terre tremalo lova. Las corpos gridavan. Terabostoso e esglacianto avanzava l'ardada giganto. Gisclavan esperme, plors e sang, se sovandvan femno e infants. Arribavan los carris d'assaut per pas morir o venir esclots. Povere villagie del Rojavo, lor calua tot desert senanar. Arabas e kurds seran afferats donos e seigneurs per s'apparar. Luchar, luchar, pulse se fartuar che davan l'ardada s'aclatar. Lo gros Grand Donald dizia: Laghero, votre l'oscur facets la pertero. Ambied los avion vos adjurem, son pas che del bren capitarem. Sericio l'Erdogan, ricio l'Erdogan, de las roquetas entrapisados, cabusavan de sus las ausados, sens relambi lo giorn, mai la nuesh, sul brave país de Kobane. Los soldats kurds e los aliats, assejats de todos los costas, podian pas avanzar ni cesar, lor calia alzagrucar s'amargar, sul puex i dins las combas, trumbavan las bombas. Serenas, tuts explosions, tronados, e de balas de las granizados, del lums failares la nuez. S'illuminavan ceres e puegs. Nivols rossos e jonas luciados, vasel sen neravan enfumado. Lu solei ravjava pas l'ormas e la luna se lava pa. De per las bastizas desrocados, de per las carrieros espetados, montaban los concir y los crits de los que eran beleu a morir. Del miles de cadáveres, per sol, al lancop, belmacel e lencol, per lardado, co era acabat, ludonai recia, había gagnat. Quantes de prisioniers, de niafrats, d'orfalens, de garels, de mutilat, perteguerón los americans. Seresia, seresia l'Erdogan. La terra tremalava, las corpos cridavan, tarabostoso e esgla siento avanzava una ersa gigantesco de soldats de l'Erdogan Luran se sovavan femmolo e enfants. Los kurds han per amics las montagnes i tambien beleu, beleu las sanios. La bataille de Kobané. La terre tremblait, les corbeaux criaient. Tumultueuse effrayante avançait la meute géante. Giclait le sperme, les pleurs, le sang, prenaient la fuite femmes et enfants. Les chars d'assaut arrivaient pour garder vie et liberté, pauvres villageois du Rojava. Devaient partir, tout laisser, là, arabes et kurdes, fraternisés. Femmes et hommes se défendaient, luttaient, luttaient, plutôt se faire tuer que devant la meute s'écraser. Le gros Donald disait « La guerre, vous les Kurdes, faites-la à terre. Nous apporterons nos avions, ils ne sont rien, nous gagnerons. » Erdogan se marrait, Erdogan rigolait. Des roquettes pleuvaient sur les hauteurs, tombaient jour et nuit sans arrêt et noyaient Kobané. Soldats kurdes et alliés, bloqués de tous côtés, ne pouvaient plus bouger, il fallait se cacher. Sur les murs, dans les combes, partout explosaient les bombes. Sirènes, chocs, explosions, bruit de balles par millions. Des lumières déchiraient la nuit et embrasaient crêtes et puits. Nuages roux et clairs jaunes, vers le ciel montaient en colonnes. Le soleil ne se montrait pas. Et la lune ne se levait pas. Depuis les maisons écroulées, depuis la ville saccagée, s'élevaient les cris, les soupirs. Peut-être qu'ils allaient mourir. Sur le sol, des cadavres par milliers, un grand massacre, un linceul étalé. Pour la meute, c'était terminé. Donald avait gagné, il riait. Combien de prisonniers, de blessés, combien d'orphelins, de mutilés. Les Américains s'en sont tannés. Erdogan se marrait, se marrait. La terre tremblait, les corbeaux criaient. Tumultueuse et effrayante, avançait une vague géante de soldats d'Erdogan le Grand. Prenez la fuite, femmes et enfants. Les Kurdes ont les montagnes pour amis, et les bourbiers peut-être, peut-être aussi. Voilà. Donc là aussi, vous voyez à quel point on est dans le présent, dans l'actualité. Hein. Et c'est un objet de la poésie occitane aujourd'hui, c'est ça. Hein. Les massacres commis dans le monde. Odile Fix. Granulométrie de la mémoire. Montagne où dort un arc de lune, gravie étoilée, elle naît, roche compacte dans nos mains, les œuvrants millénaires. Des forges en feu nous souviennent nos pieds ferreux, fusion des rouilles comme des sangs, ambre liquide qui nous recouvre, puis se fige, et nos veines par transparence, peut-être, nous soufflent. Odile Fix. Toujours la granulométrie de la mémoire. Des mers matinales avaient brisé les glaces avant le jour. Elles brûlaient les arbres et la terre, jetaient des cascades de lumière loin des torches de leurs bras, remous torrides de gravats et de lave, nuque et dos soudainement éclos, corps. Où sont récluses nos mémoires? Flammes enfantines, jambes allant à l'amble, migration silencieuse des nuages. Il existe des ombres captives. On perçoit des profondeurs océaniques, au noir, et mouvements invisibles, danse infime, nos doigts comme des voyelles. Odile Fix. Prononcer sera une ancre et un naufrage. Terres et ciels, leur matière disjointe, dans nos failles, sédimentent des poussières. Il reste les pages étroites de nos peaux, des embrasures où guettaient jardins forestiers, clairières. L'air est une nuit. Un peu de cendre esquisse des sentiers et des lisières. La substance des corps levés érode les sols. Nos écailles ensemencent les humus obscurs. Nous buvons des pluies et des rosées, trébuchons contre les pierres. Des appels lointains ondulent avec des échines de troupeaux anciens, gravissent les dorsales des peuples. Voilà, ce sont des petits flashs, des petites, à la fois des scénettes, mais aussi des apparitions de ce paysage, donc, et cette terre de, sous le volcan, cette terre du Cantal. Nicolas G. Alors, cet extrait de Le Chêne, c'est Le Chêne que je vais lire là. C'est extrait de Bouquet Final, aux éditions La Lanterne, ça paraît en 2018. Arduena Silva, éponge spontanée, furie, forêt découverte en l'état, aux sources de Pline, des histoires, forêt d'intrinsèques, de moustiques, de grabuges, de pics, de rocs gros, de tilleuls monstres et de fougères, de vers, grouillant au pied des fûts de 40 mètres, du comte de Grimm, voilà les nains. Lamelles collées. Carl von Linné, 1758. Supposer toute espèce vivante et les molaires diluviennes des mammouths, éléphantines et les chênes de Bialowieza, poussées de glands, ensevelies quand germait l'idée de réserver la chasse du comte, était-ce un duc ? La vieille Pouchka, ça recouvre quoi, la dite jungle urbaine ? Mélaminée. Car de Ninins, débusquant l'unique sentier botanique, Baba Yaga, pour l'embrasser, essarter, amortir la virulence baie des pourritures, brûler souches et loups et chouettes et couvrir le cri de Bialowieza, la décompter à la hache et au passe-partout, effaroucher sa vierge et débourrer ses conix, ses bisons sanguins. Voilà, donc là aussi, une écriture extrêmement moderne, hein. Et puis, il écrit aussi, bien sûr, en occitan. Je vais vous le lire en français. Comme un crapaud écrasé sur le bord de la route, comme une couleuvre endormie dans les ordures, ils sont tristes, les touristes. Ça s'appelle Los Touristes, les touristes. Comme un visage caché par un masque, comme un cordon bleu mal cuit dans une assiette, ils sont tristes, les touristes. Comme une eau de piscine à l'écume grise, comme une chienne estropiée qui aboie à la lune, ils sont tristes, les touristes. Comme une haie déchiquetée par une épareuse, comme une vie à manger un plein panier de mouches, ils sont tristes, les touristes. Comme un couple d'amoureux devant le smartphone, comme une porte fermée par le pass sanitaire, ils sont tristes, les touristes. Comme un canon pour effaroucher les corbeaux, comme une bâche percée qui pend aux branches, ils sont tristes, les touristes. Comme une fête payée par la République, comme un bal alternatif qui trépigne, ils sont tristes, les touristes. Voilà, une charge donc pour les des touristes. Alors, c'est vrai que on peut comprendre ça par rapport à la population locale. Il peut y avoir un décalage qui apparaît et qui, effectivement, certains touristes n'arrivent pas et s'insèrent mal, disons, dans le paysage. Bastien Ackmann, révolte puérile. Les rochers d'ocre tremblent dans la brume, un désert est sa ligne de bitume. Ils vrombrissent, funèbres sur la plaine, ils se pressent aux crevasses lointaines. Puisqu'au néant la vie nous vomit, dégorgeons, disent-ils. Secrétons l'acide sous nos langues, ouvrons grandes nos bouches putrides, blasphémons. Le moteur qui hurle n'atteint pas les falaises. L'aigle raille notre carcasse de ferraille. À quoi bon la vertu si l'on mord la poussière? À quoi bon la conscience dans un cimetière? Il faut jouir, 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 prendre de l'élan, voler un peu, s'engloutir. Quand ils eurent franchi les rideaux de la brume, plus rien que la nuit, le silence et le bitume. Bastien Ackmann, nature en fuit. Que ne m'a-t-on, par charité, laissé enfoui? Que ne suis-je l'humus caressé par les vers? Que ne suis-je la frêle et alerte fourmi? Je vais comme un forçat sur les sentiers muets. Sous mes pas lourds se taisent les grillons terrés, les arbres s'évertuent à chasser la lumière, et la biche se cache à l'ombre des bruyères. De l'animal qu'on traque, j'envie la peur vive. Sans cesse il bondit, et quand la mort le surprend, il a l'œil effrayé et le cœur pétulant. Et son souffle se mêle au grand jeu des esquives, à la rage brute des vitesses démentes. Que de friables eaux ne retiendront jamais. De la bête gisante, on boira le sang chaud, on boira le soleil de sa viande fumante, qu'un jour on léguera aux pêcheurs de clarté. Moi, je passe, fantôme empoissé de chimères, je nage en eau morte, je m'enlise et m'englue. Les magmas figés des consciences disparues m'empêchent de cingler en de mouvantes eaux. Ligne bénie, heureuse fibre sous l'écorce, ô paix minérale des poussières d'antan, sur mon front sec se lit la morsure du temps, sous le vent rajeuni que mes eaux se dispersent. Et puis le thème de l'enfance. Le thème de l'enfance, donc, avec Bastien Ackmann. Avez-vous déjà vu des enfants accroupis? Talons plantés, fesses aux chevilles, genoux pliés? Ils ont le corps élastique, fiché, rivé, au ras de l'humus. Dans cette simiesque posture, ils tracent dans le sable les lois du désir. Les dits des tout-petits que la pluie, le vent n'est pas distrait, auront vite effacé. Ils comprennent les mots des arbres, ils entendent l'écho des roches, ils lisent dans l'eau les récits des ondes noires, ils nous épuisent d'injonctions, qu'on écoute, qu'on regarde, qu'on s'étonne. Nos enfants intranquilles nous rappellent à l'ordre. Ils ont le corps docile, fiché, rivé, au ras de l'humus. Ils ôtent la patine de nos yeux. Voilà, ils ôtent la patine de nos yeux, c'est-à-dire qu'ils nous rendent... C'est un peu comme lorsqu'on se fait opérer de la cataracte, où on voyait jaune un peu, le blanc, on le voyait jaune, et bien là, les enfants, quand on les regarde et qu'on arrive à rentrer un peu dans leur personnalité, dans leur royaume de l'enfance, eh bien, c'est comme si cette couche qui nous faisait voir la réalité un peu plus fade s'était enlevée et que l'on retrouvait une vie et une vue originelle. Voilà, je ne sais pas si je vais continuer parce que je voudrais aussi parler de la deuxième anthologie. Donc, je vais passer à la deuxième anthologie. Alors, je rappelle, 11 poètes du Cantal, poètes sous le volcan, choix proposé par Jean-Louis Clarac, qui constitue le 503e numéro d'Encre Vive. Et puis, le 507e et le 508e sont consacrés aux poètes du Quercy. C'est un choix qui est proposé par Gilles Lade. Alors, je vais peut-être lire... La présentation par Jean-Louis Clarac, quand même, l'avant-propos qu'il a fait, où il dit que cette anthologie, qui fait suite à l'anthologie des poètes du Quercy, des troubadours à nos jours, alors on en avait beaucoup parlé de cette anthologie, surtout ici, à Radio Occitanie, je me souviens, dans les début des années 2000, c'était en 2001 exactement, aux éditions du Laquais, ces éditions qui ont malheureusement disparu, on avait beaucoup parlé de cette anthologie, et consacré à des poètes écrivant actuellement, à l'exception de Claude Larocque et de Michel Cozem, puisque les deux sont décédés. Alors, la notion de poète du Quercy ne doit pas être prise, nous dit Gilles Lade, dans un sens exclusif. Cela signifie que les poètes présentés ont un lien particulier avec cette terre et que leurs écrits en témoignent. Il s'agit ici du Quercy historique, c'est-à-dire l'ancien pays des Cadurques. C'est le territoire formé par les départements du Lot et du Nord du Tarn-et-Garonne, sensiblement délimité par les villes de Souillac, Gourdon, où était Lio Ferré, Moissac, Montauban, Caussade, Figeac, où vit Gilles Lade, Saint-Céré, la ville natale du poète Jean-Pierre Lassalle, mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux, et Cahors, bien sûr, y occupe une situation relativement centrale. Alors, nature et histoire s'y conjuguent d'une façon rare, par une géographie marquée. Alors, le Ségala, en contrefort de l'Auvergne, l'Écosse, entaillée de falaises par les vallées de la Dordogne, du Célé, du Lot, de l'Aveyron, des coteaux jusqu'au Tarn et à la Garonne, l'œuvre humaine apparaît à plein dans l'architecture et le patrimoine. Cahors a mis en évidence ses fondations gallo-romaines. La plupart des villes ont conservé un centre médiéval ou ancien. Les chefs-d'œuvre de l'art roman illustrent alors Moissac, l'abbaye de Moissac, fantastique, Souillac, Carnac. L'architecture rurale traditionnelle est reconnue comme l'une des plus accomplies de France par l'élégance de ses volumes. C'est vrai que le Quercy, c'est vraiment une terre de beauté absolue. Alors la poésie porte la double marque de l'occitan et du français. On va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure avec les poètes du Cantal. C'est normal. Alors, notamment avec les troubadours. Souvenons-nous de Hugues de Saint-Cirq dans la première moitié du XIIIe siècle et deux grands auteurs du XIXe siècle. Alors, un auteur qui est un auteur phare absolu quand même de la littérature occitane, c'est Antonin Perbosque. On ne dira jamais assez de bien d'Antonin Perbosque. Il a cette phrase qui a été un peu ma devise à moi. J'ai toujours voulu n'être ni le chef ni le soldat de quiconque. Voilà, Antonin Perbosque. Et Jules Cubaine et le français avec des auteurs pionniers comme Clément Marot déjà, Hugues Salel, Olivier de Manny, qui était le disciple de Ronsard, François Ménard, cher à notre ami Jean-Pierre Lassalle, il a fait une thèse de doctorat là-dessus. Le Franc de Pompignan, que l'on a, il ne faudrait pas l'oublier aussi, le Franc de Pompignan au XVIIIe siècle, c'est des repères majeurs ça. Et au XXe siècle, plusieurs poètes nous ont laissé des œuvres marquantes. Alors, il y a Roger Vitrac, il y a Jean Marcenac, il y a Georges Herman, Montalbanais, qui était l'ami de Jean Malrieux, Yves Salgue, Marguerite Grépon, vous voyez, tous ces noms. Simultanément, trois grands poètes sont étroitement associés au Quercy, dans une convergence saisissante. André Breton, bien sûr, qui découvrit le Lot en juin 1950, à l'occasion d'un colloque organisé par le Mouvement Citoyen du Monde. Et alors, il a été émerveillé par Saint-Cyr la Poupie, on le comprend. Et il viendra y séjourner tous les ans jusqu'à sa mort, jusqu'à sa mort. Et il a eu sa crise cardiaque, d'ailleurs, à Saint-Cyr la Poupie, qui l'emporta. Alors, il y trouva la demeure si longtemps désirée. Yves Bonnefoy, né à Tours en 1923, célébra dans l'arrière-pays, 1972, et c'est le nom de son recueil, publié en 1912, les étés d'enfance qu'il passa chez son grand-père maternel à Saint-Pierre-Touarag, dans la vallée du Lot. Alors, son père était né près de Figeac, et sa mère sur les confins du Quercy et du Rouergue. Voilà, j'arrête là pour ne pas... Et je vais commencer tout de suite dans les dernières, mais je reviendrai certainement quand même sur cette anthologie qui a valu à Encre Vive deux numéros. Donc, je vais parler de Annie Brier de Michel Cozem quand même. Annie Brier, alors qu'elle est originaire de la Champagne troyenne, elle a été professeure de lettres près de Toulouse. Elle a dirigé les cahiers de poèmes et les publications du groupe français d'éducation nouvelle, la fameuse GFEN. Elle fait partie du comité de rédaction de la revue et des éditions Encre Vive. Voilà. Et ça a été la compagne, bien sûr, de Michel Cozem, une grande poète. Donc, Annie Brier. Poème sur la forêt. Quand on pénètre dans l'épaisseur de votre nuit diurne, en plein été, forêt profonde, le cœur nous sert d'une présence obscure. Quoi donc nous arrive? Qu'est-ce qui brille dans la nuit de l'être? Une lumière douce caresse la pierre noire de nos vies. Près de vous, arbres ancrés dans la terre pour 1000 ans, on oublie un instant la brièveté tragique de notre séjour. Près de vous, arbres, la saveur de l'éternité. Annie Brier. Je viens l'hiver dans cette forêt, comme sur une île déserte. Toujours je m'enchante de cette solitude. Les arbres observés d'en haut semblent être les acteurs immobiles d'une étrange scène de théâtre, immense, assoiffée de ciel. Poussant d'un seul élan leurs lignes pures vers la lumière, leur présence a tant de force première, primitive, que marcher longtemps au milieu d'eux exalte la liberté, le rêve aussi. On avance dans un silence infini, troublé parfois par un cri d'oiseau, l'éclosion d'une fleur. Je ne sais comment étreindre tant d'espace, tant de tranquillité. Annie Brier, qui était vraiment, enfin, qui est toujours, qui vit dans le Lot maintenant de façon définitive, et qui est vraiment totalement amoureuse de ce pays. Forêt d'hiver. Regarde bien la forêt d'hiver délivrée de ses feuilles. Regarde les arbres nus qui s'offrent à tes regards. Regarde-les vibrer dans les étincelles du matin. Regarde les grands chênes. Sache à quel point ils te ressemblent. Ils ont arrondi leurs branches, comme toi, tes bras, pour accueillir l'enfant qui court dans le branle-bas du cœur. Ils sont ce qu'il y a de plus tendre sous le ciel, de plus solide, de plus sûr pour l'oiseau, de plus souverain pour toi. Leur joliesse d'hiver est dans la multiplicité des courbes de chaque branche, dans la délicatesse de leurs doigts tendus vers le ciel, marchent lentement l'esprit habité d'innocence, puis découvre dans les centres de la forêt un monde culbuté, jonché de feuilles de broussailles, de bois divers, pareil à des bêtes mortes, d'où s'élancent ici et là, à l'assaut du ciel, les flammes vertes des grands pins au bout d'un tronc immense, comme poussé d'un seul jet en une seule nuit. Apprends des arbres à te taire. Goûte le privilège du silence. N'oublie pas les nuages. apprends d'eux la lenteur, le gonflement, l'incandescence du cœur. Voilà, poème émouvant de Danny Brier. Il me fait penser aussi à cette poète du Canada, qui parle aussi des arbres. Jean-Pierre Denis aussi, qui a écrit sur les arbres. C'est ces arbres qui, quand on les contemple, effectivement, sont un peu des leçons, nous donnent un peu des leçons de sagesse, nous invitent à la sagesse. Et puis les arbres, c'est ce qui relie la terre au ciel, en définitive, c'est-à-dire la matérialité à la spiritualité. Et nous allons finir par Michel Cozem. Je suis en train de rechercher dans Michel Cozem avec Annie Brier, bien sûr. Alors, on ne présente pas Michel Cozem, si ce n'est rappeler quand même qu'il est né à Tunis, Michel Cozem. Il est né à Tunis en 1939. C'était une période assez difficile, 1939 à Tunis, d'une famille originaire de la région toulousaine. Alors, il a vécu successivement dans l'Aude à Brame, où vit maintenant une autre poète, qui est Régine Amintu, qu'il a publiée et qu'il a bien connue. Il a vécu en Ariège, près de Saint-Girons. Et il a passé tous ses étés dans la région de Figeac depuis les années 60, avant de s'y établir définitivement. Alors, il avait fait Sciences Po, Michel Cozem, c'est amusant. Et après, il est devenu documentaliste à Saint-Girons. Voilà. Alors, il a fondé à Toulouse, donc Ancrevive. Ancrevive qu'il assuma donc jusqu'à son décès, 2023, aux côtés d'un comité de rédaction de dizaines de poètes. Au sein des éditions Ancrevive, il créa les collections Lieu, en 1995, et Encre Blanche, en 1999. Alors, il a une œuvre qui est une œuvre quand même tentaculaire, dont nous avons souvent parlé ici, et je vous invite à revoir. Mais, bien entendu, Michel Cozem, nous en reparlerons. Je vais lire ce qu'il y a dans cette anthologie. Les mots, dis-tu, et tu te tais, la maison du rêve est ouverte et le soleil siffle aux fenêtres, chaque goutte a sa joie. Dans la fourrure du feu, une légende est en train de naître. Les mots, dis-tu, tu te tais, tu laisses le cerf blanc porter au-delà des collines, les illusions et les rêves, mais aussi un cri sanglant et fort qui étrangle le cercle des regards. Bien, c'était publié chez Rougerissa. Nous reviendrons bien sûr là-dessus, puisque moi, c'est le temps étrangle de cette émission. Bon, je rappelle, Poète du Quercy, volume 1 et volume 2, aux éditions Encre Vive, à lire absolument. Vous avez toutes nos coordonnées sur lespoètes.site. Ainsi s'achève cette émission. Claude et moi, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Souhaitons une très bonne semaine et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Addition.